Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde.
Mangoto yai, yai pate, kolo setieu.
Écoute les bruits du monde. Bruit du monde par principe actif.
Par principe actif.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Les Bruits du Monde, l'émission qui prête une oreille attentive au brouhaha, à la poésie et à la musique de notre vaste monde notamment. Ce soir nous décollons pour l'Argentine et pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure radiophonique, vous retrouvez l'ami Vivien. Salut camarade.
Salut.
Et puis Manon, qui nous avait quitté momentanément, mais un bon moment, qu'on retrouve ce soir et qu'on est très content de retrouver parmi nous. Salut Manon.
Bonsoir à tous.
Et on est d'autant plus content qu'on va pouvoir un peu s'appuyer sur elle pour la prononciation des titres.
Oui. Il va falloir nous aider grandement.
D'accord, je vais essayer de faire de mon mieux alors.
Parce qu'on est un peu largué en termes d'accent, de prononciation et même de vocabulaire hispanique, il faut bien l'avouer. On commence peut-être par revenir sur ce qu'on vient d'écouter, ami Vivien. C'était un choix de votre choix.
Et ça tombe très bien parce que j'ai aucune info. C'était un son que j'ai trouvé sur les audioblogs d'Arte Radio. Donc c'est une promenade en Argentine.
Un voyage sonore.
Oui, mais
de planter le décor.
Voilà. J'ai plus le nom par contre des gens qui ont réalisé ça. Si je retrouve d'ici la fin de l'émission, je vous le dirai.
On avait des bruits d'animaux. Voilà. Typiquement argentin, les aboiements du chien.
D'ailleurs, on a remarqué l'accent, c'est pas du tout comme par chez nous.
C'est ça, ils aboient pas par. Comment on dit en espagnol aboyer?
Ladrar.
Merci Manon.
Et ils font guaou guaou.
On écoute un premier morceau aussi peut-être. Manon, vous allez nous parler pas mal de cinéma. Peut-être on peut dire deux mots, présenter rapidement. Si je crois qu'il y avait un petit peu une thématique ou un fil un peu continu.
Oui, bah je vais présenter déjà plusieurs films du même réalisateur Carlos Sorin. Donc je vous présenterai notamment Historias Minimas et d'autres films qui se passent souvent d'ailleurs beaucoup en Patagonie, une région je crois sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Je vais également présenter ensuite, on va dire plutôt dans une deuxième partie, des films avec un thème commun, le contexte historique de l'Argentine dans les années 70, puisque c'est un pays qui malheureusement a vécu des heures sombres, et notamment une dictature assez féroce. Donc je parlerai de certains films qui se passent, qui se déroulent à cette période. Et puis il y a souvent dans ces films un acteur argentin que l'on retrouvera souvent, qui s'appelle Ricardo Darín. Voilà, donc je parlerai de ces deux, on va dire, de ces deux grands thèmes au cours de l'émission.
Et vous, Vivien, peut-être présenter ou pas, comme vous voulez. Je vous tends la perche. Et puis alors, vous en non, faites ce que vous voulez.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai retrouvé le nom de la dame qui a réalisé l'audioblog. En fait, elle a réalisé toute une série sur un voyage en Amérique du Sud. Il y en a pour une heure, hein, d'audio. Elle s'appelle Laurence Fromont. Et donc ça, c'était Ambiance de la Trasla Sierra, séquence enregistrée au bord de la route de Achiras Arriba à San Javier, région de Córdoba, en Argentine.
Très bien. On écoute un premier extrait musical et puis on revient juste après. Vous êtes bien dans les bruits du monde et on est ensemble jusqu'à 21h sur l'antenne de Principe Actif.
C'était Adolfo Ábalos qui était un compositeur, pardon, on parlait film juste avant, un compositeur classique qui s'est beaucoup inspiré du folklore argentin dans ses compositions. C'est sur l'album qui s'appelle Musica del Noroeste et le titre s'appelle Carnavalito Quebradeño.
Aquí lo tiene. ¿Qué le parece?
No dice René. No dice René. Claro, yo le había pedido a su marido que él me pusiera acá en el centro feliz cumpleaños René, ¿se da cuenta? Y me puso feliz cumpleaños nada más. ¿Usted no lo puede agregar eso, usted?
Yo le llego a tocar una torta a mi marido y me mata.
¿Dónde puedo redecorar una torta? ¿Dónde?
¿Redecorar?
Sí. Lo que pasa es que yo la mandé a hacer y no me pusieron el nombre del homenajeado, ¿se da cuenta? Entonces como...
¿Redecoraron una torta?
Sí,
no, no, acá no.
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 Lo que yo le quiero decir es que se nota que el nombre de la criatura lo agregaron.
¿No ve que Feliz Cumpleaños tiene una letra y René tiene otra letra? Y sí.
Alors, que venons-nous d'écouter, Manon ?
Alors, on vient d'entendre la bande-annonce du film Historias Minimas, un film donc réalisé en 2002 par Carlos Sorin. C'est un des réalisateurs argentins qui arrive à nous parvenir hein, jusqu'en France, hein, parce qu'on n'a pas forcément tant de films que ça qui parviennent jusqu'à nous, hein, mais Carlos Sorin, c'est un des réalisateurs, on va dire, récurrents, et qui, on va dire, traverse nos frontières. On peut régulièrement, d'ailleurs, voir ses films au Ciné Plus, sur Évreux, c'est le genre de film qui peuvent en tout cas être vus de temps à autre. Donc celui-là, Historias Minimas, c'est un film choral. Alors un film choral, c'est un film où vous avez plusieurs histoires qui ont l'air, quand on commence à voir le film, on a l'impression que ces trois histoires finalement n'ont aucun lien entre elles. Et petit à petit, au fil du film, on va dire, on a des liens qui se font et puis les personnages qui finissent par se rencontrer. Et ainsi, à la fin du film, finalement, il y a comme un puzzle qui est reconstitué. Et finalement, chaque histoire avait en réalité un lien, puisque les personnages ensuite vont finir par faire connaissance. Donc, dans Historias Minimas, vous avez donc trois histoires, trois personnages. Ça se passe donc en Patagonie du Sud. Vous avez donc trois histoires en parallèle. Premièrement, Don Justo. Donc lui, il essaye d'échapper à son petit-fils et il part à la recherche de son chien. Roberto, qui a 40 ans, alors c'est l'extrait que l'on vient d'entendre en fait, hein. Il compte donner un gâteau d'anniversaire à son éventuel futur beau-fils, et puis le problème c'est que la commande n'est pas exactement comme il le souhaitait. Alors c'est normalement un gâteau en forme de, donc à la base en forme de ballon de foot, parce que ce futur beau-fils est un admirateur du football. On sait que le football c'est quand même quelque chose de très important en Argentine. Et puis, le problème, là, dans l'extrait, on entend notamment, hein, ce qu'il nous raconte dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que sur le gâteau d'anniversaire, ils ont simplement noté joyeux anniversaire, mais pas le nom de son futur beau-fils. Donc, ça pose tout un problème. Et puis, la commande, il y a tout un problème avec ce gâteau au fur et à mesure du film. Et ce qui est très amusant, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, c'est qu'à la fin, ce gâteau chocolaté en forme de ballon de foot, il finit par se transformer en tortue verdâtre, parce qu'au fil de la route, il y a toujours un problème qui se passe avec le gâteau. Il va se retrouver avec un moment un accident qui fait que le gâteau va se décomposer, donc il va falloir refaire quelque chose, et à la fin il se termine complètement, ça n'a plus rien à voir avec le gâteau de base. Et enfin il y a une troisième histoire assez amusante aussi, sur cette même route, hein, en Patagonie du Sud, vous avez Maria Flores qui a 25 ans et qui se rend à la finale d'un jeu télé, et elle a bien l'intention de remporter le premier prix. Alors là, effectivement, le premier prix, quand je vous dis ça comme ça, on s'attend à quelque chose de merveilleux, mais en fait c'est simplement un robot ménager, et il y a vraiment une vraie vraiment beaucoup d'humour et beaucoup finalement de critique de la télé-réalité derrière, enfin, et des jeux surtout, hein, de la télé basura, c'est-à-dire la télé poubelle, le côté un peu trash des choses, enfin, c'est assez amusant. Et donc voilà, il y a ces trois voyages, hein, que l'on voit dans ce film, et puis à la fin on verra que les personnages finiront, alors je ne vais pas spoiler après tout le film, l'intérêt c'est aussi de donner envie aux auditeurs de voir ce film, on le trouve assez facilement, hein, je pense. À la fin, en tout cas, il y aura un lien réel entre ces trois histoires qui, à première vue, n'ont aucun point commun. Un autre film du même réalisateur, c'est Bombón el Perro, c'est-à-dire Bombón le chien, toujours donc de Carlos Sorin, sorti en 2005, celui-ci. Ça se passe toujours plus ou moins dans la même région, hein, c'est quand même la région de prédilection de ce réalisateur-là. Ici, donc, on a Juan, lui, donc, il a 52 ans. Il n'a pas d'emploi, plus d'emploi depuis la vente de la station-service qu'il employait jusque-là. Et il essaye de subsister en vendant des couteaux qu'il fabrique lui-même. Mais ce n'est pas un commerce très rentable, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc Juan, il est forcé de vivre chez sa fille. Un jour, il répare donc la voiture d'une femme aisée. Et pour le dédommager, pour le rembourser, elle va lui offrir son chien, Bombón, un superbe dogue argentin. Sa fille, par contre, elle ne veut absolument pas de l'animal et donc elle chasse rapidement l'animal. Et Juan, donc, il va se retrouver sur la route avec Bombón. Donc, on a encore cette fameuse route. Hein. Faut savoir que les routes en Patagonie, c'est des routes à perte de vue. C'est un petit côté Far West, hein, finalement. On a un petit côté un peu western, un peu road movie, hein, dans ces films-là, de par cette région de la Patagonie. Hein. Et donc, pour en revenir à Juan, donc, il se retrouve sur la route seul avec le chien Bombón. Et il va faire la connaissance de Walter, qui est un préparateur canin, et qui va être séduit par la beauté de l'animal et qui va proposer donc à Juan de le présenter à des concours canins. Et donc ils vont se mettre tous les deux à dresser Bombón. Alors c'est un film avec plein de portraits, hein, plein de portraits légers, des esquisses hein, tout au fil du film. Et on parle souvent hein, d'un cinéma pudique chez Carlo Sorin, avec quand même un petit décalage, hein, y a régulièrement un petit peu d'humour décalé. C'est ça qui fait aussi tout le charme de ce réalisateur.
Est-ce voilà. que ça vous dit qu'on écoute l'extrait de la bande-annonce ?
Oui, tout à fait, on peut effectivement mettre cet extrait pour avoir un petit peu une idée de l'ambiance du film, bien sûr.
De los creadores de historias mínimas, ahora llega El Perro. Una película sobre la soledad y la esperanza.
En la puta vida has querido tener un perro, justo ahora se te ocurre. ¿Qué te ha dado a vos en viejo? No entiendo. ¿Perros aquí? No, ¿está?
Uno se acostumbra a la compañía, ¿vio? Es como las personas que uno quiere.
Una historia de gente sencilla.
Uno no se da cuenta de que los quiere hasta que no están.
De gente verdadera.
Izquierdo, 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 derecho, izquierdo.
No me hagas queda mal, vamos. Vamos a casita.
Está un poco nervioso, ¿eh?
Vamos, Lechen, pórtese bien.
Una historia de instintos y de amistades. Una historia de triunfos y de sueños.
Nene, ¿no viste un perro blanco, grande?
No se lo habrán robado, jefe. Lechel. Lechel.
Ah, pero usted me engañó. Usted es el que viene viajando mucho. Y va a seguir viajando.
Perro, una historia inolvidable.
Voilà, donc ça vous a un petit peu planté le décor du film, donné une petite idée de l'ambiance. Voilà, on avait une voix en tout cas off très, voilà, très, très intéressante, on va dire. Voilà, en tout cas après donc pour en revenir encore à Carlo Sorin, un dernier film. Bon, il en a fait beaucoup plus que ça, bien évidemment, hein, mais c'est vrai qu'on le connaît surtout depuis à peu près 15 ans, hein, en France du moins. Y a un autre film intéressant aussi, c'est El Camino de San Diego, le chemin donc, de San Diego, donc de 2007. Et là, bon, l'histoire, elle est très simple. Hein. On a donc Tati, c'est son nom, hein, qui voue un culte à Diego Maradona. Forcément, on est dans la patrie du football. Forcément, quand on pense à l'Argentine, on ne peut que penser à Diego Maradona. Et donc ce Tati, donc qui est complètement un fan donc de Diego Maradona, décide un jour de prendre la route pour rencontrer son idole. Donc toujours cette route, hein, c'est vraiment quand même quelque chose qui revient en permanence chez Carlo Sorin. Et donc au fil de la route, il va rencontrer un certain nombre de personnages. Mais donc ce Tati, lui, va absolument offrir. Donc une sorte de sculpture, enfin pas vraiment une sculpture mais une sorte de racine d'arbre qu'il a trouvée en fait, complètement par hasard dans son village, et il trouve que cette racine d'arbre elle ressemble à la silhouette de Diego Maradona, et donc il va absolument lui offrir Maradona, donc en tout cas dans le film, et puis on se rappelle qu'il a vu d'ailleurs un souci de santé en 2004, dans le film Diego Maradona est justement hospitalisé, et donc pour l'aider à aller mieux, il va absolument lui faire don de cette trouvaille, de cette espèce de racine en fait qui lui a rappelé le profil de Diego Maradona. Donc c'est pareil, il y a toujours beaucoup d'humour, hein, beaucoup de rencontres au fil de ce film. Donc c'est un film vraiment... Il n'y a pas de sérieux, hein, c'est un film dénué d'esprit de sérieux. Mais c'est vraiment très, très, très sympathique à découvrir. Et je dirais que le cinéma argentin, pour conclure sur Carlo Sorin, c'est un petit peu ce qu'est le cinéma français, on va dire, au niveau mondial. C'est beaucoup de portraits comme ça, intimistes, de portraits finalement de gens authentiques, avec la vie finalement... telle qu'elle se déroule simplement. Y a beaucoup de films en tout cas de cette veine-là en Argentine, et c'est un cinéma en tout cas qui vaut la peine d'être connu. Voilà, donc je vous invite à découvrir Carlo Sorin pour déjà au moins ces trois films, mais il y en a encore d'autres à découvrir bien évidemment.
Pobre mi madre amarillo.
on est vraiment sur une réinterprétation du folklore argentin avec le duo Leda y Maria. C'est Leda Valladares et Maria Elena Walsh. Ça date de 1957. L'album s'appelle Entre Valle y Quebradas, volume 1. Et le titre, je vais peut-être... Moi, je vais m'y essayer. Baguala Salteña del Valle de Lerna. Voilà. On va enchaîner avec
muy
un...
bien.
Merci bien. On va enchaîner avec un autre titre. Alors, parce que quand on pense Argentine, on pense tango, on pense Piazzolla. Et du coup, un petit décalage, puisque c'est Piazzolla qui réinterprète les quatre saisons. C'est les quatre saisons à Buenos Aires. Et là, on s'écoute l'été. Thank you. Piazzolla et les 4 saisons de Buenos Aires, on vient d'écouter Mercedes Sosa qui nous chantait Chacarera del 55. Alors Mercedes Sosa, c'est la grande voix vraiment contestataire d'Argentine, elle est d'origine indienne et donc dans les années 60 elle a participé à ce mouvement qui s'appelait la Nueva Canción qui réinterprétait justement comme d'autres artistes tout à l'heure les airs folkloriques pour les remettre à l'honneur. Son premier album dont est tirée cette chanson s'appelait Canciones con Fundamento. Il est de 1965. Et après cet album et les concerts qui ont suivi, elle a été arrêtée, Mercedes Sosa, et interdite de chansons. Donc tout ce qu'elle a pu faire, c'est s'exiler en Europe, où elle a continué à porter sa voix et à faire carrière. Avant de pouvoir retourner chanter en Argentine, je crois, à la fin des années 80 ou dans les années 90. Et comme on est très bon en transition, je vais passer la parole à Manon, parce que je sais qu'elle avait prévu de parler de cette période également.
Alors moi, je vais parler de la période en fait, des années 70 surtout. Il y a eu en tout cas en Argentine, en 1976, un coup d'État et donc une dictature militaire qui a duré jusqu'en 1983. Il y a eu notamment l'un des généraux les plus connus, c'était Videla, enfin les plus tristement connus. On pense souvent au Chili avec le général Pinochet, hein, à peu près à la même période, en 73. Il y a eu également un coup d'État et une junte militaire donc au pouvoir. Mais on a eu la même chose en Argentine, c'est peut-être un petit peu moins connu, avec Videla et puis plusieurs juntes militaires successives. Donc de 1976 à 1983. On estime qu'il y a eu à peu près 30 000 personnes qui auraient été portées disparues, donc, c'est-à-dire qu'elles ont été incarcérées, torturées, et puis malheureusement, beaucoup d'elles, on ne les a jamais retrouvées derrière, donc on ne peut que deviner ce qui leur est malheureusement arrivé. Ça a été vraiment une période très sombre dans l'histoire argentine. et avec vraiment des atrocités commises. L'utilisation de la picana, c'était un appareil de torture. On transmettait, on va dire, des décharges électriques dans le corps des prisonniers. Certaines personnes, et ça c'est assez terrible, au-dessus de la baie de Buenos Aires, ont été jetées vivantes depuis des avions, ce qui est quand même assez, assez atroce. C'est vraiment en tout cas une période terrible dans l'histoire argentine. Et puis, quelque chose d'assez important aussi, c'est que parmi ces disparus, il y a eu aussi des enfants, en fait, qui sont nés, en fait, dans les prisons directement, dans les centres de détention. Certaines personnes qui étaient donc contre le gouvernement, contre la dictature militaire, ou simplement d'ailleurs des étudiantes qu'on suspectait juste parce qu'elles étaient étudiantes de réfléchir, et donc comme un étudiant réfléchi, il était forcément une menace pour la dictature en place. Il y a donc eu beaucoup d'étudiantes et puis de femmes qui ont donc, on va dire, qui ont été incarcérées alors qu'elles étaient enceintes, qui ont donc mis au monde leurs enfants dans ces espèces de centres de détention qui étaient plus ou moins d'ailleurs cachés et secrets. Et puis, ces enfants ont été volés et ont été confiés à des familles de militaires directement. Donc, il y a eu vraiment quelque chose d'assez atroce, notamment au début des années 2000. C'est qu'il y avait de nombreux jeunes qui avaient une vingtaine d'années, en fait, au début des années 2000 notamment. Donc, des personnes nées entre 76 et 83, qui se sont rendus compte que, finalement, leurs parents étaient... Enfin, ceux qui croyaient être leurs parents n'étaient pas leurs parents biologiques et que c'était finalement les bourreaux de leurs parents biologiques. Ce qui est quand même assez atroce dans la construction personnelle de ces jeunes-là. Et vous avez donc une organisation très connue en Argentine, ce sont donc les mères et grand-mères de la place de Mai maintenant, qui manifestent tous les jeudis sur la place de Mai, qui est la place principale de Buenos Aires, où vous avez la Casa Rosada, c'est la maison rose, donc la maison du gouvernement. Et elles manifestent donc sans relâche depuis maintenant une bonne trentaine d'années, pour vraiment... que le gouvernement, finalement, dise où sont passés les disparus, c'est-à-dire les personnes, ces 30 000 personnes disparues, et notamment ces enfants, ces bébés volés. Et donc, leur association, en tout cas, actuellement, est vraiment très active. Ils ont même réussi à récolter, on va dire, des données génétiques, c'est-à-dire que les grand-mères qui recherchent, qui savaient, par exemple, que leur fille attendait un enfant alors qu'elle avait été incarcérée, ces grand-mères, en tout cas, déposent, font des prises de sang, on récolte leurs données génétiques. Et si un jeune... a des suspicions et pense que sa famille n'est pas sa famille biologique, il a des doutes, il peut se rendre donc dans l'association des grand-mères de la place de Mai. On lui fait aussi des tests génétiques. Et puis, il y a des tas de recherches comme ça depuis des années où on essaye de recouper les tests sanguins. Et tous les ans, il y a quand même des petits-enfants, des petits-fils et des petites-filles qui retrouvent leur grand-mère biologique et qui retrouvent leur famille biologique. Donc, on va pouvoir mettre en tout cas un court extrait donc, d'une manifestation... des mères et grand-mères de la place de Mai pour avoir en tout cas un bruit de la place de Mai, un bruit du monde, puisque c'est le titre de notre émission aussi. Voilà.
1977, place de Mai à Buenos Aires, ces femmes manifestent pour la première fois.
Por favor, ayúdennos, por favor.
Leurs enfants ont été enlevés pendant la dictature argentine. 40 ans plus tard, toujours coiffées de leur foulard blanc, elles exigent sans relâche la vérité.
Que los jueces abran sus archivos y digan a quién entregaron los bebés que fueron apropiados de sus madres cautivas. Y estamos en la plaza como ese primer día, como esos primeros encuentros llenos de ilusiones, pensando de que en cualquier momento iban a aparecer nuestros hijos, nuestras hijas.
Entre 1976 et 1983, plus de 30 000 jeunes opposants à la dictature sont torturés et assassinés. Plus de 500 bébés sont volés. En 2003, l'arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner avait relancé les espoirs de ces mères et grand-mères de la place de Mai. Des centaines de militaires impliqués dans la répression des opposants avaient été jugés et condamnés. Mais depuis 2015 et l'élection du conservateur Mauricio Macri, ces femmes lui reprochent un manque d'investissement. Pas question pour autant d'arrêter leur combat. Elles se rassemblent chaque jeudi à 15h30.
Voilà, donc ça vous permet un petit peu mieux de les découvrir, hein, mais c'est vrai que c'est un groupe de femmes assez impressionnante, hein, pour leur implication dans ce combat. Alors je vais vous parler un petit peu de cinéma. donc de films, donc à nouveau, hein, avec un certain nombre de films qui justement se passent à cette période. Je vais commencer avec Infancia Clandestina de Benjamin Avila, et c'est un film donc de 2011. On va pouvoir écouter la bande-annonce avant que je vous explique un petit peu, que je vous fasse un petit résumé rapide de ce film.
Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar...
Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto?
Es mejor no hablamos sobre fútbol.
No te queda otra, ¿no?
Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio.
Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo.
Compañero Marcos.
Presente.
A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa y el grupo están a mis órdenes.
¡Abuela!
Hola, me llamo Ernesto.
Yo María.
Sí, yo sé.
¿Cómo supiste que papá, que te gustaba?
¿Te pasa algo acá en la panza? ¿Como algo diferente?
La situación del país, ¿no es cierto? Que está... Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país.
Llega acá.
¿Con quién hablabas? ¿Dónde está Juan? ¿Con quién hablabas?
No hay nada en el mundo mejor que las minas.
¿Sabes a dónde me gustaría ir? A Brasil. ¿Conoces?
No.
Voilà, donc vous avez pu entendre donc la bande-annonce de Infancia Clandestina. Alors donc pour vous donner une petite idée de l'histoire, donc vous avez la vie quotidienne tout simplement donc d'une famille de guerrilleros pendant la dictature militaire. Le héros de l'histoire donc c'est un jeune adolescent de 12 ans, Ernesto. Il vit avec ses parents et sa petite sœur, va au collège où il retrouve donc chaque jour Maria, donc une fille de son âge dont il est très amoureux. On a l'impression aux yeux de tous hein, qu'il mène une vie normale, mais en réalité, il cache un terrible secret. Son vrai nom n'est pas Ernesto, mais Juan, et ses parents sont membres des Montoneros, donc c'est un groupe de guerrilleros qui luttait donc contre le gouvernement, contre la dictature militaire à l'époque. Ils sont revenus en Argentine grâce à l'aide de l'oncle Beto, après avoir vécu un long exil à Cuba. Et donc on est en 1979 et c'est donc une année donc, où la dictature militaire multiplie les actes de répression. Et donc les Montoneros, dont font partie les parents d'Ernesto, s'apprêtent à lancer une opération contre-offensive. Donc dans la famille hein, de Juan, on voit qu'il manie les armes. Les membres de la famille donc viennent rendre visite les yeux bandés. Les amis sont invités à des anniversaires inventés. Donc il y a vraiment... on voit vraiment en fait la vie, on va dire, qui n'est pas tellement normale hein, de cette famille qui lutte en cachette contre la dictature militaire. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce film, il est basé sur l'enfance personnelle du réalisateur, dont la mère était affiliée aux Montoneros et dont la mère a malheureusement été assassinée. Donc c'est vraiment presque autobiographique pour le réalisateur. Et enfin donc le film il a été donc présenté au Festival de Cannes et il a reçu à l'époque 7 prix dont la caméra d'or, donc c'est un film en tout cas que je vous conseille vivement de voir sur cette période C'est un film intéressant. Un film qui ressemble un petit peu, qui a un point commun aussi, hein, c'est Kamchatka, avec un acteur dont je vais reparler un petit peu plus tard, qui est très célèbre en Argentine, et puis aussi en France, hein, pour le cinéma argentin, c'est l'un des seuls acteurs finalement qui parvient jusqu'à nous. Hein. Ricardo Darín, hein, est aussi présent dans ce film, ainsi qu'une actrice espagnole qu'on connaît beaucoup parce qu'elle joue dans beaucoup de films de Pedro Almodovar. C'est Cecilia Roth, donc une des égéries d'Almodovar, qu'on a vu notamment dans Tout sur ma mère, par exemple. Donc Kamchatka, on va pouvoir peut-être entendre une bande-annonce pour avoir encore une fois une petite idée de l'ambiance du film. Voilà, merci.
Fue en el otoño del 76. Cuando descubrí juegos que nunca había jugado y encontré un tesoro y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe,
en el nombre del padre,
mi hermano en un santo, y yo en Houdini. Y cambié de casa, de colegio y de nombre para ser yo mismo. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen.
¿Sabes qué es lo único que me da miedo? Que no volver a verlo nunca más.
Mamá, ¿qué le pasa a papá?
Necesito saber que yo voy a estar a salvo de toda esta mierda.
A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre.
No atiendan ninguna llamada y tampoco llamen a nadie.
Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka.
Voilà, donc c'était Kamchatka. Donc c'est un film de Marcelo Pinheiro. Donc c'est donc une chronique encore, hein, qui se passe toujours à la même période, en 1976. Donc le héros du film, c'est encore un petit garçon, il a 10 ans, il comprend pas grand chose à tout ce qui se passe autour de lui. Un jour sa mère vient le chercher en classe et elle lui interdit de revoir son meilleur ami, et ses parents l'emmènent, lui et son petit frère, dans une maison isolée. Donc en 1976, il y a vraiment des patrouilles partout dans les rues de Buenos Aires. On voit les militaires qui contrôlent les véhicules. Enfin, on sent d'ailleurs à un moment, par exemple, le soulagement de la mère, donc de l'enfant, lorsqu'un soldat permet à la voiture d'avancer. On voit vraiment toute cette tension, hein, toute cette période, on va dire, avec cette dictature qui se met en place. Le seul avantage, ça rappelle un petit peu une fin de sa clandestina, que rencontre l'enfant, c'est que ses parents lui demandent de changer de nom. Donc il trouve ça super, et donc il choisit de s'appeler Harry, comme Houdini, son idole, le roi de l'évasion, celui qu'il rêve de devenir une fois grand. Hein, donc il y a vraiment, il adore tout ce qui est magie, etc. Donc tout au fil du film, il y a vraiment l'importance d'un livre comme ça avec plein de tours de magie, Houdini. Ça avait réalisé, c'est vraiment pour l'imaginaire de l'enfant quelque chose d'important tout au long du film. Donc en tout cas, le jeune garçon ne doit parler à personne, il n'a pas le droit de répondre au téléphone. Et puis il va y avoir en tout cas un jour un nouveau personnage qui va arriver donc dans cette maison isolée, c'est Harry. Un jour, donc Harry, c'est le nom du petit garçon en réalité. Hein. Il va donc voir avec son petit frère qu'il appelle le microbe débarqué, donc un adolescent prénommé Lucas, un faux nom de plus. Et puis ce jeune, on suppose que c'est un étudiant, hein, qui malheureusement doit aussi se cacher à cause de la dictature en place, etc. Donc c'est encore simplement la vie quotidienne d'une famille, hein, qui se cache, qui doit changer d'identité, hein, pendant cette fameuse dictature des juntes militaires. Donc cette fois-ci, on est en 1976. Tout à l'heure, dans Une fin de siècle clandestine, on était en 1979. Mais ces deux films ont quand même beaucoup de points communs. Donc je vous invite aussi à le découvrir, Kamchatka et puis Une fin de siècle clandestina, donc deux films assez intéressants à ce sujet là il y avait aussi donc simplement un film plus ancien qui parlait précisément du problème donc des bébés volés pendant la dictature. C'était La Historia Oficial de Luis Puenzo, l'histoire officielle. C'est aussi une référence que vous pouvez peut-être noter si plus particulièrement cette cette histoire des enfants volés hein, pendant la dictature et qui ont été donc donnés à des familles de militaires. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aussi en tout cas découvrir La Historia Oficial, l'histoire officielle, si on traduit le titre en français. Voilà donc pour ce qui est des films en rapport avec cette dictature argentine. Il y aura un dernier film qui a un petit lien quand même avec cette période dont je pourrais vous parler. C'est Dans ses yeux, dont on va pouvoir aussi peut-être écouter tout de suite la bande-annonce. Et puis je vous expliquerai un petit peu de quoi il retourne juste après. Voilà.
Hace 25 años que me pregunto.
Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado.
Señor Esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio.
Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejaba fue otra vida. Ahora quiero entender todo.
¿Y qué sabes de escribir novelas vos?
Quiero escribir sobre la causa de Morales.
El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora.
Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Está en el estado de amor puro.
Voilà, donc une petite idée de l'homme dans son corps du film, donc Dans ses yeux. Donc c'est un film qui se passe sur deux périodes, hein, donc la période on va dire actuelle et puis 1974. Donc on est donc au départ dans les années 90 à Buenos Aires, Benjamin Esposito, qui est encore une fois joué par le même acteur que dans Kamchatka, Ricardo Darín, hein, qu'on retrouve à nouveau. Donc dans les années 90, donc Benjamin Esposito, c'est un fonctionnaire retraité du ministère de la Justice et donc il reste toujours hanté par le meurtre non élucidé d'une jeune femme perpétrée 25 ans plus tôt en 1974 et donc il décide d'écrire un roman sur l'affaire. Donc on va voir c'est tout le travail qu'il effectue, les recherches, etc. Les souvenirs de l'enquête hein, qui se mêlent à ses souvenirs personnels. Il se rappelle notamment l'amour qu'il portait à la juge Irene Menéndez Hastings, avec qui il avait tenté d'élucider le meurtre à l'époque. Et puis, en même temps, à Esposito, il va replonger dans cette période sombre de l'Argentine, où l'ambiance était étouffante. C'est un polar en apparence, mais un peu plus que ça quand même. Hein. On est donc dans l'Argentine des années 70 encore, hein, avec un policier qui ne croit plus à grand-chose et qui ne croit surtout pas non plus en lui-même. Et puis donc il va découvrir ce cadavre meurtri d'une jeune femme récemment mariée. Et donc il se jure de découvrir le coupable, mais voilà, dans les années 90, il n'a toujours pas réussi à élucider ce meurtre et cela finalement le ronge. Alors simplement, ce film, il y a eu une reprise beaucoup plus récemment, l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas, avec une reprise donc, par les Américains, sous le titre « Aux yeux de tous ». Et donc, le scénario de « Dans ses yeux » a subi quand même de grandes modifications. Alors, il faut savoir que c'est aussi un livre à la base, hein, un livre d'ailleurs d'un auteur argentin. Donc, le scénario de « Dans ses yeux », il a subi de grandes modifications pour cette version américaine. Il ne s'agit plus de l'assassinat d'une jeune femme récemment mariée, mais de la fille de l'héroïne interprétée par Julia Roberts. Donc un rôle qui était normalement à la base masculin qui a été finalement spécifiquement réécrit pour elle et les héros ne travaillent plus pour le ministère de la Justice hein, comme dans la version argentine mais pour le plus spectaculaire FBI et à la tête de leur service c'est cette fois une femme qui leur donnera des ordres, donc elle est incarnée par Nicole Kidman et puis on a un nouveau contexte, ça n'a plus rien à voir du coup avec la dictature argentine, avec l'époque sombre des années 70 en Argentine. C'est donc le contexte des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Donc je trouvais ça assez étonnant l'année dernière de voir qu'il disait que c'était finalement une reprise du film Dans ses yeux, sachant que finalement il n'y a plus vraiment de points communs. Enfin, je veux dire, on n'est plus du tout dans le même contexte historique. Donc je vois pas tellement comment est-ce qu'on peut dire que c'est, c'est vraiment une réécriture complète. Pour moi, c'est complètement un film différent. Enfin, donc je trouvais ça assez gonflé de la part des Américains de dire que c'était inspiré du roman de cet Argentin puisque ça n'a plus rien à voir. Voilà.
On va écouter un dernier titre que vous aviez choisi, Vivien, mais j'en profitais sur la thématique de la dictature argentine et notamment sur ces histoires d'enlèvement d'enfants qu'on a retirés à leurs parents biologiques. On vous conseille, on en avait déjà parlé dans des émissions précédentes, le livre de Caril Ferret, qui est un auteur français, qui s'appelle Mapuche, qui s'est un peu spécialisé dans le moi j'appelle ça le polar ethnique.
Le polar indigène.
Ouais, le polar ethnique. Il y a des adaptations cinéma sur d'autres films qui se passent dans d'autres lieux.
Oui, Zulu par exemple.
Exactement, avec notamment Orlando Bloom. Là. Voilà, mais en tout cas, les bouquins sont plutôt pas mal. C'est plutôt bien.
De même, j'ai aussi un titre dans ce cas-là aussi à conseiller, c'est Loup sous le temps sauvage, d'une auteure argentine qui a d'ailleurs dû s'exiler en France. Hein. C'était donc c'est Elsa Osorio. Maintenant, elle revit à nouveau en Argentine. J'avais pu la rencontrer il y a à peu près 10 ans de ça d'ailleurs. Donc c'est un livre vraiment très intéressant et le thème c'est exactement aussi hein, les enfants volés de la dictature avec plusieurs personnages, plusieurs époques qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Et elle a aussi écrit, puisqu'on parlait tout à l'heure de musique hein, et du tango argentin, elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Tango. Et le tango en fait dans ce livre... prend vraiment, on va dire, est vraiment un personnage du livre. Et on a toute l'histoire du tango hein, au travers toute une histoire familiale. Et puis il y a encore, bien évidemment, c'est vraiment comme une chronique, une saga familiale, hein, avec les origines du tango. Et puis aussi, on a un moment aussi, forcément, des références au contexte historique argentin et encore une fois à la dictature militaire. Voilà, puisqu'un des personnages, malheureusement, fait les frais, encore une fois, de cette période-là.
Vivien, en quelques mots, le morceau qu'on va écouter, ou au moins le...
Pour se dire au revoir.
Pour l'artiste, et puis où on se fera une petite conclusion.
D'accord.
Pour le prochain rendez-vous.
Ouais. Voilà.
Juste une petite présentation.
Un DJ qu'on a déjà écouté, hein, Chancha Via Circuito. Voilà, DJ qui réinterprète aussi des airs traditionnels en cumbia, je sais pas, j'en avais choisi deux, je sais pas lequel vous allez passer.
Coplita avec Myriam Garcia.
Parfait.
Si mes infos sont bonnes.
C'est parfait.
On écoute ça, Chancha Via Circuito.
Cansarme los caballos de vicio me ha...
Chancha via circuito, on vous le chante comme ça là, pour respecter les horaires. Merci à vous Vivien et Manon d'être passé par nos micros, d'avoir fait toute cette émission. Moi j'ai servi strictement à rien ce soir, j'ai poussé les boutons quoi.
Merci Timothée.
On avait besoin de toi quand même. je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et puis on se reverra bientôt pour une prochaine émission. Pour détendre l'atmosphère, si vous avez envie de regarder un film argentin un petit peu déjanté, Les Nouveaux Sauvages, c'est un film de 2014 avec Damien Difron. Vous avez donc 6 histoires qui ont rien à voir cette fois-ci les unes avec les autres et c'est assez loufoque, un humour complètement décalé. Voilà, je vous conseille de jeter aussi un petit coup d'œil là-dessus. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Voilà, on revient le 15 jours. Le 28, on a consulté les oracles. Le 28 juin et on vous parlera cette fois-ci d'Israël. Une bonne fin de soirée à l'écoute de programmes des programmes de Principes Actifs. Ciao.
Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par Principes Actifs.